L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Une porte claque dans cette jolie journée du mois de mai 1888. Bertha et sa mère se regardent sans un mot. La porte s'est refermée dans leur dos et laisse place à un moment de silence. C'est pas nécessaire de parler. Tout a déjà été dit. La décision est prise. Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Bertha attrape la poignée de sa grosse valise en cuir et aperçoit ses initiales, BP, brodées près de l'ouverture. Elle traverse la rue pavée et monte dans la calèche pour rejoindre sa mère, déjà assise sur la banquette arrière. Les deux femmes ajustent leurs robes sous leurs fesses. Le cocher donne un petit coup de fouet aux chevaux et ça y est, les voilà partis. Nous sommes en 1888. Bertha Pappenheim a 29 ans et la jeune femme n'a aucune idée qu'aujourd'hui, nous connaîtrons son existence sous d'autres initiales. Elle ne se doute absolument pas non plus que ce déménagement marquera le début de sa guérison, de sa vocation, de son existence propre, de sa vraie vie. Il est 18h15 et c'est l'heure H de mon histoire. Au bruit des sabots sur les pavés, Bertha et sa mère traversent la ville de Vienne pour la dernière fois. Lorsque le cocher les dépose à la gare, le train est déjà sur le quai. Les deux femmes saisissent leurs valises d'une main, retiennent leur chapeau de l'autre et trottinent jusqu'au quai, de peur de rater le départ. Une fois installées à l'intérieur du wagon, le siffleur de train souffle dans son sifflet et annonce « Départ imminent pour Francfort !» Bertha est un peu émue et pense à son père. Elle écrase du doigt une larme sur sa joue et se murmure pour elle-même qu'elle l'aime et qu'elle ne l'oubliera pas. Même s'il lui reste là, promis, elle ne l'abandonne pas. À côté de cette tristesse, il y a un léger soulagement qui plane aussi. Au moment où les portes de la voiture se referment, Bertha croise les doigts très fort. Peut-être qu'en même temps, les portes de la souffrance se referment derrière elle également. Et effectivement, les dernières années ont été difficiles. Bertha laisse aller sa tête contre la vitre et les souvenirs défilent, au même rythme que le paysage devant elle. En fait, dès la naissance de Bertha, et même avant, on peut dire que déjà l'ambiance n'était pas très bonne chez les Pappenheim. Ses parents, Sigmund et Recha, sont tous les deux juifs. Son père est considéré comme un millionnaire parce qu'il avait hérité d'un gigantesque commerce de grains. Sa mère est issue d'une riche famille bourgeoise de Francfort, composée d'artistes et d'intellectuels. Bon, jusque-là, rien de dramatique, me direz-vous. Au contraire, faire partie d'une classe sociale aisée constituait un réel avantage pour les conditions de vie de l'époque. Malheureusement, malgré un foyer chauffé généreusement au poêle et au sein duquel de la viande est servie plusieurs fois par semaine, une tristesse abyssale entoure le couple et la famille. En 1849, Recha et Sigmund donnent naissance à une première fille, puis à une deuxième, 4 ans plus tard. Mais cette deuxième meurt à l'âge de 2 ans. L'aînée, qui a eu la joie d'avoir une petite sœur, redevient fille unique. Et le couple, meurtri par le décès de leur fille, mettra plusieurs années avant de se décider à redonner la vie. C'est là que le 27 février 1859, Bertha voit le jour. Dès sa naissance, peut-être sent-elle dans le bras de sa mère la blessure de la perte. Peut-être sent-elle le regard presque trop protecteur de son père. Peut-être sent-elle un trio soudé par un secret autour d'elle. C'est difficile à dire. En tout cas, c'est évident que la famille qui accueille la petite Bertha est empreinte d'un lourd chagrin. Mais Bertha grandit et sa grande sœur prend soin d'elle. Elles jouent ensemble et la petite fille disparue, entre elles deux, n'est pour Bertha, qui ne l'a jamais connue, qu'une photo dans un cadre. Quelques années plus tard à peine, les Frangines accueillent un petit frère. Enfin un garçon. Ça ravit la famille. Les années passent alors que la fratrie grandit dans ce milieu bourgeois et les rues de Vienne. Le trio de frères et sœurs joue au cheval à bascule, à cache-cache ou même à des jeux de cartes dont l'aîné prend le temps d'expliquer les règles. Mais un jour, Bertha ne comprend rien à ce que lui explique sa grande sœur. Oh, non pas parce que les règles sont trop compliquées, non, mais parce que sa sœur tousse entre chaque mot. Les quintes de toux sont tellement fortes qu'elle essuie quelques traces de sang dans son mouchoir. Bertha est un peu choquée. Elle appelle sa mère et le diagnostic est posé immédiatement. La tuberculose s'empare de la jeune enfant avec une violence folle. À l'époque, cette maladie est considérée comme incurable. Alors, malgré tous les efforts, l'amour et la bonne volonté de toute la famille pour faire guérir leur aîné, rien ne suffit à la garder en vie. Bertha a 8 ans lorsque sa sœur décède. Bertha a 8 ans lorsque ses parents perdent leur deuxième fille. Le drame est absolument terrible. En plus d'être terrifiant lui-même, il rouvre la plaie toujours béante et elle aussi incurable du premier décès. La timeline est tragique puisque l'arrivée au monde de Bertha est à la fois précédée puis succédée par le décès d'une sœur. Bon, désolé, je vous avais prévenu. L'ambiance est plutôt sombre chez les Pappenheim. Mais bon, ne dit-on pas que ce qui ne tue pas nous rend plus forts ? En tout cas, plus forte ou pas, Bertha surmonte cette terrible épreuve. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. Et ça lui donne malgré elle une place particulière au sein de cette famille. Bertha se trouve maintenant être la survivante des filles Pappenheim. Le train ralentit brusquement. Bertha se redresse sur son siège. Sa mère s'est assoupie à côté d'elle. Elle la regarde, mais Bertha sent son œil faire des va-et-vient dans son orbite. Elle respire pour essayer de se calmer. Sa main se crispe sur sa jambe et semble se rigidifier. Bertha sait qu'il n'y a rien à faire. Le train réaccélère. Elle referme les yeux en attendant que ça passe. Faut qu'elle pense à autre chose. Plonger dans le passé, ok, mais il y a bien quelques souvenirs un peu moins dramatiques pour se changer les idées, non ? Malgré le décès de l'aîné de la fratrie, la vie de toute la famille reprend son cours. Bertha conserve quand même une certaine légèreté enfantine. Elle et son frère ne s'entendent pas très bien. Bertha trouve que son frère la tyrannise, mais bon, ils continuent de grandir à deux, pas le choix. Ils vont à l'école ensemble et font leurs devoirs sous le regard appuyé de leur mère. Le couple Pappenheim est totalement orthodoxe et déploie beaucoup d'énergie à transmettre une bonne éducation à leurs enfants, notamment à Bertha, qui est éduquée dans le but de devenir une jeune fille de bonne famille à marier. Ouais, autant dire que ça ne rigole pas tous les jours. On étudie l'hébreu, les textes bibliques, on apprend le français, l'anglais, l'italien, et puis, en termes de loisirs, parce que oui, bien sûr, amusons nos enfants quand même, Bertha est inscrite à des cours de piano, d'équitation et de broderie, censés la divertir. Mais les professeurs sont stricts, les exigences super élevées. Il faut se tenir correctement, dos bien droit, sourire, ne pas rechigner. Puis il y a des devoirs. Bref, au final, c'est pas amusant du tout. Même les hobbies sont imposés et contraignants. Pourtant, à la base, Bertha est une petite fille, puis une jeune femme plutôt solaire. Elle a de l'énergie pour mille, elle aime se dépenser, elle est gaie, elle adore faire le pitre. Au départ, tout allait bien pour elle. Elle était avenante et légère, mais la petite Bertha, qui n'a rien demandé, tombe dans cette famille endeuillée et en plus extrêmement coincée, figée et campée dans des traditions étouffantes. Bertha fait presque tache dans sa famille. Sa bonne humeur pouvait paraître malvenue, grotesque, un peu too much. Alors, pour se mettre au diapason, ne pas dénoter, ne pas faire honte à ses parents et surtout inconsciemment, pour leur rester loyale et fidèle, Bertha se fond dans le moule. Elle colle au modèle pour ressembler au sien. Et impossible de le lui reprocher. Bien sûr que tous les enfants ont envie d'être aimés et d'être à l'image de ce que leurs parents attendent d'eux. Alors Bertha s'efface, obéit et se plonge dans les livres. Elle dépense son énergie à dévorer des ouvrages. Son énergie physique contenue est évacuée par une soif d'apprendre et une curiosité immense qu'elle assouvit en se dévouant à l'apprentissage. La jeune adolescente a la tête sur les épaules et de la suite dans les idées. Elle comprend vite que la connaissance, c'est aussi le pouvoir, et notamment celui de la liberté. Et puis, la culture lui permet de s'évader. Le temps d'une lecture, elle s'offre la possibilité de rêver à un avenir autre que celui d'être réduite à devenir une épouse parfaite, silencieuse. Mais les livres ont leurs limites, et Bertha étouffe. Elle a beau s'échapper mentalement, les règles de la maison la font redescendre sur terre immédiatement. Vêtue de robes toujours plus cintrées, Bertha doit sourire aux invités, servir les convives, apprendre à s'adresser aux adultes, apprendre les bonnes manières. Malheureusement, à l'adolescence, les rêveries ne suffisent plus. Plus aucun subterfuge ou détournement n'apaise sa sensation d'oppression au sein de sa famille étriquée. Et doublement malheureusement, son dévouement à l'apprentissage va maintenant être mis au service de quelque chose de bien moins stimulant et de bien plus laborieux que la lecture. En 1880, son père tombe terriblement malade. Il a besoin de compagnie et de soins. Bertha a 21 ans lorsqu'elle est réquisitionnée au chevet de son paternel. À ce moment-là, Bertha ne sait pas que le pire est encore à venir. Elle ne sait pas non plus qu'encore plus tard, à l'âge de 29 ans, elle montera dans le train de la grande solution miracle, qu'elle voyagera vers sa renaissance.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, vous écoutez l'histoire de Bertha Pappenheim, un nom qui ne vous dit sûrement rien du tout. Et c'est normal. Non seulement parce que si on parle encore de cette femme aujourd'hui, en cours de psychologie par exemple, c'est sous un autre nom. Mais en plus et surtout, parce que dans tous les ouvrages universitaires, Bertha est réduite à être citée. Elle est présentée comme un personnage secondaire, voire comme une figurante. Bertha Pappenheim occupe un rôle auquel on a donné beaucoup d'attention et qui était au centre des regards, mais un rôle qui s'apparente presque à celui d'objet d'étude. Voilà, c'est ça. Bertha a, comme qui dirait, consisté à être rat de laboratoire. En tout cas, ce n'est que sous cet angle-là que l'histoire est racontée. Et ce simple constat, assez révoltant, a suffi à me donner envie de vous raconter l'autre version de cette histoire, en partant de son point de vue à elle. Bah oui, et si on partait d'elle, et qu'on la considérait comme sujette et actrice de sa propre histoire ? Bertha Pappenheim, née en 1859, est devenue, malgré elle, un symbole de l'hystérie. Son existence publique s'est réduite à ça, à être une folle inguérissable. En tout cas, c'est ce que Freud, tous les docteurs et enseignants, nous racontent encore aujourd'hui. Pourtant, un jour, tout bascule. Le train dans lequel elle monte en 1888, à l'âge de 29 ans, va changer le cours de sa vie. Et cette suite-là mérite, elle aussi, d'être racontée. La tête contre la vitre, Bertha se laisse bercer par le train. Sa valise entre ses jambes, elle essaye de bouger ses pieds. Elle n'y arrive pas et elle pousse un petit grognement de frustration. Ses pieds enfermés dans ses souliers vernis semblent paralysés. Le bruit réveille sa mère, qui somnole sur le siège à côté d'elle. Elle regarde sa fille, lui demande si tout va bien. La jeune femme tourne brusquement la tête et lui répond très rapidement, en articulant trop et en anglais. Sa mère pousse un petit cri de surprise, presque de panique. Elle a beau avoir l'habitude de voir sa fille en proie à des épisodes de crise, l'apparition de chacune d'elles la met dans tous ses états. Ce qui, évidemment, n'arrange rien. Heureusement, le train contraint sa mère à se maîtriser. Pas d'esclandre en public, ce serait mal vu. Alors elle se contente de mettre une main devant la bouche de Bertha pour étouffer ses petits cris. Puis, elle humidifie son mouchoir en tissu et le tamponne sur le front de sa fille. Bertha, elle, s'évade dans ses rêveries pour essayer de calmer la crise qui est en train de l'envahir. Bon, elle a l'habitude. Ça fait des années qu'elle vit avec ça. Ça ne lui fait plus peur. Le train continue de rouler, le paysage défile, vite. Moins vite que les heures. Le trajet est long. Depuis Vienne, le train passe par Prague, traverse l'Allemagne, et cela semble interminable. À Francfort, les deux femmes retrouveront toute la famille maternelle. Pour le plus grand bonheur de la mère, d'ailleurs, qui ne supporte pas la distance avec ses frères et sœurs. Elle vit mal d'être séparée d'eux et elle a envie que Bertha passe plus de temps avec ses cousins et cousines. Le côté maternel de la famille de Bertha est influent, bourgeois et avec des bonnes relations. Peut-être qu'enfin là-bas, un médecin digne de son nom trouvera le remède à la folie de sa fille. En tout cas, remède ou non, ce nouveau départ est nécessaire. Plus rien ne semble les retenir à Vienne, à part des mauvais souvenirs, les deuils, les crises d'hystérie interminables de Bertha et la mort de son père. En effet, le père de Bertha tombe malade en 1880, lorsqu'elle a 21 ans, et qu'elle est plongée dans ses livres pour essayer de s'émanciper intellectuellement de cette famille qui l'étouffe. Immédiatement, elle est appelée à son chevet. Très vite, la jeune femme prend son rôle très à cœur, bouleversée par la fragilité de son père. Elle veille sur lui jour et nuit. Elle ne quitte sa chambre qu'une heure ou deux l'après-midi pour prendre une pause. Bertha fait le tour du jardin, puis remonte au pied du lit. Elle s'assied sur un fauteuil à bascule et chantonne. Elle chantonne pendant des heures et des heures. Ses veilles se ressemblent toutes. La notion du temps est perturbée. Bertha regarde son père, mais pour faire passer le temps, elle se laisse aller à rêvasser. Elle plonge dans son imaginaire, comme on le fait tous, dans des longs moments d'attente. Elle se raconte des histoires, et son mental devient un monde où elle s'invente des aventures pour tuer l'ennui. Alors qu'elle est là physiquement auprès de son père, Bertha fuit pour vivre des contes de fées. Plus tard, elle en parlera en appelant ça son théâtre privé. Mais au fil des mois, les cernes de Bertha se creusent. Elle ne dort presque pas et le reste de la famille décide de l'éloigner de son père afin qu'elle se repose et qu'elle recharge ses batteries. Ouais, ce serait bête que la soignante s'affaiblisse elle aussi. À contre-cœur et avec énormément de chagrin, Bertha quitte la chambre de son père pour rejoindre son propre lit et, à peine couchée, la jeune femme est prise d'une quinte de toux. Nous sommes en novembre, donc. Certes, il commence à faire cru à Vienne, mais la toux s'installe. Bertha prolonge de plus en plus ses rêveries. Finalement, ses journées sont rythmées par des états de somnolence, entrecoupés de phases d'agitation en après-midi. Sa mère s'inquiète. Elle ne reconnaît plus sa fille, qui jusque-là avait une santé de fer, était indépendante, bien dans ses baskets, joyeuse, dévouée. Alors elle appelle le grand médecin réputé et attitré des familles de la haute bourgeoisie juive de Vienne. J'ai nommé Joseph Breuer. Si vous ne le connaissez pas, disons qu'il fait partie de la même équipe que Freud. Ils se sont d'ailleurs bien connus et se sont influencés dans leurs pratiques en matière d'hystérie et de maladies mentales. Joseph Breuer connaît personnellement la famille Pappenheim. Il débarque au chevet de Bertha avec un diagnostic formel. La toux n'est rien. Par contre, cette jeune femme souffre d'hystérie. Et comme si le simple fait de nommer son état le rendait réel, Bertha développe soudain toute une flopée de symptômes absolument surprenants. Elle ne parle plus qu'anglais, puis se met à mélanger toutes les langues, avant de se taire complètement pendant 15 jours. Sa vue se brouille, des membres de son corps se contractent et se paralysent. Sa peau s'anesthésie. Elle s'agite, devient grossière, capricieuse, puis ne se souvient plus de rien. Bref, ça déraille pour notre pauvre Bertha. Elle reste au lit tout l'hiver et même jusqu'en avril 1881 sous le regard du médecin qui vient lui rendre visite. Joseph Breuer, intrigué par ses symptômes impressionnants, prend son rôle très à cœur. Il s'investit, tente de comprendre, comme s'il était face à une énigme impossible à résoudre. Il prend alors un petit carnet et décide de tout noter. Il y inscrit « Vienne, 1881, Anna O, 21 ans, hystérique. Le train traverse l'Allemagne et quitte la gare de Leipzig, dans laquelle il s'est contenté de ralentir sans s'arrêter. Bertha se lève et fait quelques allées et venues entre les sièges pour se dégourdir les jambes. Cela fait 7 ans qu'elle vit avec des paralysies momentanées. Elle se rassoit, épuisée. 7 ans qu'elle vivote sous l'effet du chloral, une sorte de sédatif qu'on administrait à l'époque, et sous le regard des médecins. Elle est à bout de ces incompétents qui semblent tout savoir mieux que tout le monde, mais qui ne l'écoutent pas vraiment. Elle n'arrive pas encore à se formuler la solution miracle. Pourtant, une intuition ne cesse de grandir en elle. À Francfort, ça ira. À Francfort, je serai à nouveau debout, solide, et même plus. Je trouverai ma vocation, je serai libre. Cette étiquette de patiente lui colle depuis trop longtemps à la peau. Elle s'y sent coincée. Dans une nouvelle ville, elle pourra s'en détacher. C'est vrai. Comment aller bien quand vous êtes cataloguée comme celle qui va mal? Et encore, heureusement qu'elle ne sait pas tout. À l'époque, Bertha devient Anna O, un nom qui circule dans les bouches des médecins, qui la considèrent comme un objet d'étude. D'abord, Joseph Breuer pratique l'hypnose et franchement, il faut le reconnaître, ça marche pas trop mal. Alors, le 1er avril 1881, à l'âge de 22 ans, Bertha quitte son lit. Certes un peu déboussolée, mais elle va beaucoup mieux. Et comme si elle ne pouvait décidément jamais aller bien, 5 jours plus tard, son père se met à agoniser. Bertha supplie sa mère de lui raconter ce qui se passe. Ça fait des mois qu'on ne lui dit plus rien, soi-disant pour l'épargner. Bertha tombe des nues lorsque sa mère cède et met fin au mensonge. Le soir même, le papa de Bertha décède. Autant vous dire que si la jeune femme avait plus ou moins repris pied, ben là, elle se reprend un coup de massue. L'annonce de la perte de son père est tellement assommante que Bertha en est anéantie. Elle passe tout le printemps, l'été et l'hiver suivant entre des moments de somnambulisme et d'état plus ou moins normal. Joseph Breuer se rend bien compte que la perte de son père est un choc immense. Il sent que ce n'est pas le moment d'arrêter le suivi. Il continue de lui rendre visite, de discuter avec elle. Et d'ailleurs, Bertha ne s'adresse qu'à lui. Elle rejette ses proches et accepte de se nourrir seulement en sa présence. Et alors que jusqu'à présent, elle racontait à son thérapeute ses rêveries et son théâtre privé avec légèreté et un style façon conte d'Andersen, maintenant ses histoires sont des tragédies morbides. Elle hallucine, elle a des envies suicidaires. Bref, on parlerait de psychose aujourd'hui. Breuer est un peu dépassé par les événements. Il fait venir un collègue pour qu'il examine sa patiente, son cas Anna O. Bertha se met à frapper ce médecin qu'elle n'a jamais vu. Elle fait des crises d'angoisse. Finalement, en juin 1881, on la place en clinique. Contre son gré, la jeune femme de 22 ans est emmenée dans une grande maison de campagne où l'on s'occupe des troubles nerveux dans la région de Vienne. Et puis, petit à petit, elle se calme à coups de grandes doses de chloral et y devient addicte.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous revenons sur l'histoire de Bertha Pappenheim, aujourd'hui connue dans les livres de psychologie sous le pseudonyme d'Anna O. On parle même du cas Anna O, célèbre puisqu'elle est la première patiente de l'histoire de la psychanalyse. Son médecin, Joseph Breuer, l'a suivi pendant 2 ans et complètement guéri, avec des séances d'hypnose et une cure par la parole. Freud s'en est mêlé. Il n'a jamais rencontré cette Anna O, mais ça ne l'a pas empêché d'émettre des hypothèses d'abus sexuels de la part de son père. Hypothèse qui expliquerait l'hystérie. Ça ne l'a pas non plus empêché de reprendre les méthodes de Breuer à son nom. Bref, je pense qu'on peut dire que les hommes et médecins de l'époque se sont emparés de la fragilité mentale de Bertha pour en faire un cas, un objet d'étude et une course à qui sera le meilleur. L'ego a remplacé les soins. Mais derrière ce cas, il y a Bertha, dont l'histoire est bien plus riche qu'uniquement celle d'une malade. Et si Breuer s'est donné tous les mérites du rétablissement de sa patiente, il semblerait que si l'on chausse les bottes de Bertha, on se rend compte qu'il y ait quelques nuances. Et puis Bertha a eu une vie après tout ça. La vie incroyable d'une femme à la générosité immense, et plus encore. Il semblerait que ce jour de 1888, à l'âge de 29 ans, Bertha ait quitté la ville de Vienne, la ville de tous ses malheurs, et se soit sauvée elle-même. Le train continue de filer et de traverser l'Allemagne. De grosses gouttes s'écrasent sur la vitre et Bertha les regarde glisser. Au loin, sur un sentier qui longe les rails, elle aperçoit un promeneur avec un chapeau melon et un chien qui court devant lui. Il lui rappelle le chien de la clinique et son cœur se serre immédiatement. En juin 1881, lorsque Bertha se fait placer en clinique à la campagne, elle se lie d'amitié avec un chien. Elle a l'impression qu'il la comprend. Elle restera un an dans cette maison. Les jours y sont rythmés par de grosses doses de chloral, les rendez-vous avec Breuer et quelques sorties où Bertha rend visite à des pauvres. Lors de ces rendez-vous avec son médecin, comme Bertha est stabilisée, on pourrait presque dire droguée, leur petit rituel de discussion à propos de ses rêveries reprend. Ensemble, ils vont même un peu plus loin et créent un vrai protocole. Lorsque Bertha est dans des états seconds, elle raconte ses hallucinations ou les contrariétés de sa journée. Et puis, lors de leurs échanges, la jeune femme se met à revivre, jour pour jour, tous les événements qui se sont produits depuis un an, depuis la mort de son père. C'est elle qui lui propose de se lancer là-dedans. Elle appelle ça le ramonage et elle le fait en chronologie inversée. Elle commence par hier et puis remonte le temps jusqu'à ses premiers symptômes. Breuer assiste à ça, silencieux et stupéfait, de voir que chaque fois qu'elle évoque le contexte et la contrariété à l'origine d'un symptôme, celui-ci disparaît. Ainsi, il parcourt par exemple les 303 apparitions de moments de surdité, tous les moments de paralysie, jusqu'à l'ultime séance où Bertha raconte la scène où tout a commencé. Le jour où, au chevet de son père, elle s'est sentie vriller. Elle raconte ce moment et soudain sa parole redevient fluide, sans mots anglais, sans mouvement parasite du corps. Après cette séance, eh bien, Bertha sort de la clinique. Ça y est, en juin 1882, Bertha est guérie enfin. Le train s'arrête pour entrer en gare et des passagers descendent. Sa mère somnole toujours à côté d'elle. Bertha est amère à l'évocation de ce souvenir. Le fameux grand jour de sa sortie de clinique, le fameux jour de sa guérison. Quelle supercherie! Breuer se vante d'une technique, la cure par la parole, qui n'est non seulement pas la sienne, puisque c'est Bertha qui en a eu l'idée, mais en plus, même si cette technique l'a soulagée, elle n'a pas été complètement efficace. Contrairement à ce que Breuer raconte, Bertha est loin d'être guérie. Il explique, fier comme tout, que sa patiente, maintenant rétablie, est partie en voyage et qu'elle jouit d'une santé remarquable. Et Freud s'en donne à cœur joie aussi, en parlant de la cure par la parole comme d'un énorme succès. Il en parlait tellement qu'on aurait presque pu croire qu'il s'agissait de son idée et de sa patiente. Le train redémarre. La pluie s'est calmée et laisse place à quelques rayons de soleil qui réchauffent les visages de la jeune femme et de sa mère. Dans quelques heures, elles arriveront à Francfort et s'installeront dans la famille maternelle. Bertha sourit. Là, pour le coup, il s'agit d'un vrai voyage, non pas comme celui que Breuer a inventé et raconté à tout le monde. En vérité, Bertha est toujours malade. Et Joseph a arrêté son traitement parce qu'il n'y arrive plus. C'est un calvaire pour Breuer. Il est à bout et il s'en plaint à ses collègues. En plus, sa femme devient jalouse de sa patiente. Et des rumeurs circulent. Bref, Breuer patauge dans la semoule. Alors il abandonne, il renonce. Mais il n'en dit pas un mot. Il annonce la guérison de Bertha et un voyage à l'étranger. À la place, il fait placer Bertha au sanatorium de Bellevue, en Suisse. C'est une autre clinique, celle d'un ami à lui, qui a sa renommée et sa réputation. On y accueille les malades les plus riches, en toute discrétion et contre de grosses sommes d'argent. Bertha y reste pendant 4 mois, et il faut le dire. Niveau décor, c'est idyllique. La jeune femme se promène le long du lac, de l'orangerie, se laisse aller dans des transats, regarde des patients jouer aux boules alors que d'autres se dépensent sur des terrains de tennis. Bertha, elle, ne profite ni de la salle de billard, ni de celle de musique. Par contre, tous les jours, elle part faire des randonnées et de l'équitation. Le soir, elle rentre dans sa chambre, qui est en fait un petit appartement dans lequel sa dame de compagnie l'attend. Ces conditions apaisent sans doute Bertha. Mais alors qu'elle quitte l'établissement avec un rapport qui indique que tout s'est amélioré, la jeune femme sait que ce n'est pas le cas. Et elle le dit elle-même. Ce n'est pas une vie de passer ses journées à côté d'une piqûre prête à vous être administrée. Bertha est toujours addicte au chloral et sa névralgie faciale toujours présente. Mais là, vous l'aurez remarqué, c'est la première fois que Bertha prend la parole sur son état. C'est la première fois qu'elle se positionne sur elle-même, qu'elle parle pour elle. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un signe, c'est un petit pas. C'est une façon de reprendre les rênes, de redevenir actrice. Se raconter soi-même, c'est reprendre la main sur l'histoire et la vie qu'on mène. D'ailleurs, Bertha commence à se positionner aussi par rapport à sa famille, de façon calme et assez saine. Elle parle de sa colère, du mensonge autour de son père, de sa détresse d'avoir été privée d'un dernier regard avec lui, ce moment si important pour pouvoir faire son deuil. Et peut-être que ce moment amorce tous les suivants. Que cet instant représente le premier pas, la première étape d'une succession de décisions propres pour se lancer sur sa route à elle, jusqu'au jour du grand départ, en 1888. Comme si, jusqu'à présent, Bertha s'était laissée conduire, parfois même menée en bateau. Comme si ce jour-là, elle décidait de se déplacer par ses propres moyens, de retaper sa vieille bagnole, d'en remplacer le moteur, d'en refaire la carrosserie et enfin prendre son chemin à elle. Cette rénovation d'elle-même et ce début de vie en tant que femme dans son entièreté ont donc commencé à sa sortie du sanatorium en novembre 1882. En quittant la Suisse, Bertha décide de laisser derrière elle son étiquette de malade. Elle s'inscrit à des cours pour devenir aide-soignante. Elle a 23 ans et pendant les 5 années suivantes, jusqu'en 1887, elle se retape. Elle vit à Vienne et tente de s'accrocher à cette formation adressée à des femmes qui ont envie de devenir directrices d'établissements médico-sociaux. Malheureusement, Bertha rechute plusieurs fois. Les hallucinations refont surface. Breuer continue de parler d'elle. Il raconte à Freud qu'il préférerait qu'elle soit morte pour être libérée de ses souffrances et qu'elle ne se remettra jamais. Et si de l'extérieur son état laisse croire ça, on peut penser qu'en fait, ses rechutes sont le signe et l'annonce d'une fabuleuse guérison. Bertha utilise à présent ses fragilités et les transforme. Elle a été submergée par le dévouement qu'elle a livré à son père. Elle l'a subi. Désormais, Bertha décide d'en faire un de ses atouts et de le cadrer en suivant sa formation. Alors certes, elle ne finit pas ses cours, mais la machine est lancée. Elle ne les finit pas parce qu'elle se met à avoir de nouvelles hallucinations. Mais ses aventures mentales peuvent devenir sa force, un don pour l'écriture, pour la poésie. Cette imagination peut être cadrée et mise en mots avec une sensibilité folle et beaucoup de recul. Bertha ne le sait pas encore, mais durant ces 5 années-là, elle construit véritablement les fondations de son existence. Elle construit sa vie, son succès. Elle transforme ce qu'il a abattu et s'en sert comme moyen de guérison. À la base, Bertha est une femme extrêmement généreuse et empathique, avec l'envie d'aider celles et ceux qui l'entourent. En soignant les malades, elle s'engage dans des causes sociales. Notre protagoniste se sauve elle-même. Et ce jour de 1888 où Bertha monte dans le train signe la fin de cette longue préparation, construction, rénovation. Le jour où Bertha arrive à Francfort, sa vie commence enfin, après 5 années à se guérir, seule. Bertha aboutit. Elle prend la route de sa vie, celle de l'accomplissement et de la réalisation. Plus que quelques mètres, et le train à vapeur passera sous l'arche voûtée à l'entrée de la gare de Francfort. Les quais sont recouverts, l'horloge est imposante sur la façade, les passagers vont et viennent dans tous les sens. Bertha et sa mère se lèvent et défroissent leurs robes chiffonnées par le voyage. Elles vont retrouver la famille maternelle. Et ces retrouvailles sont chaleureuses, se font autour d'un rôti de porc et du chou rouge. Cette famille bourgeoise est impliquée dans des œuvres de charité. Alors, dès le lendemain, Bertha demande à sa cousine de l'amener à la soupe populaire. La famille est étonnée. Ils sont impliqués, mais de loin, et seulement financièrement. Bertha n'en démord pas. Elle veut aller sur place. Très vite, elle dédie ses journées à faire la lecture à des orphelines. Puis elle se met à écrire. Son imagination est recueillie dans des contes qu'elle publie sous le pseudonyme de Berthold, décidément. Ces histoires de noms la poursuivront. Et on dirait bien que la cure par l'écriture, elle, la libère complètement. Plus tard, elle devient directrice d'un orphelinat, vivant ainsi entièrement sa vocation. La militante est née. Bertha ne s'arrête plus. La liste de ses actions est infinie. Elle publie une pièce de théâtre qui critique l'exploitation des femmes, crée un centre d'accueil pour femmes, traduit des ouvrages féministes, enseigne. Apparemment, l'hystérique addict de Breuer est en fait une femme remarquable et leaduse du féminisme juif. Parallèlement, sa carrière d'hystérique se poursuit. Les médecins ne lâchent pas Anna O. Freud raconte en privé le fiasco qu'a mené Breuer. Puis publiquement, il présente la cure par la parole d'Anna O comme l'origine de la thérapie psychanalytique. Le culot n'a pas de limite. Heureusement, l'ambition et la résilience de Bertha non plus. Et ouf, cette dernière ne l'a jamais su. Sinon, il est évident qu'elle aurait rejeté tout ça. Elle avait la psychanalyse en horreur. Alors qu'Anna O vit encore aujourd'hui dans les livres de psychologie, Bertha Pappenheim est décédée à l'âge de 77 ans. Les filles de l'orphelinat ont continué d'appeler leur institution la maison de papa, et c'est difficile évidemment de ne pas penser à celui de Bertha. Privée du sien, cette femme en a proposé un symbole en donnant un toit à des jeunes filles. Par son engagement, son écriture et sa poésie sensible, Bertha a éteint son hystérie. Mais surtout, elle a pris la route à bord de son propre véhicule. Elle a mené sa barque et elle a sublimé son passé. En soignant les autres, elle s'est réparée et s'est réappropriée son histoire avec tendresse. Voilà pour ce récit touchant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Amélie Dieudonné.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.